VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui du 10 octobre 2019 et Kabadou à la présentation. Voici les titres. Ouverture du dialogue politique au Bénin. L'opposition organise un contre-dialogue. En Tunisie, le parti Ennahda est en tête des législatives. Nabil Karoui est sorti de prison peu avant le second tour de la présidentielle dimanche. Recep Tayyip Erdogan menace de lâcher les migrants sur l'Europe en réponse aux critiques de son intervention militaire dans le nord de la Syrie. Lyon, dans le sud de la France, abrite une conférence du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'objectif des 14 milliards récoltés atteint, selon les organisateurs. Et dans 10 minutes, ne manquez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le président béninois Patrice Talon a ouvert le dialogue politique à Cotonou. Ses concertations de 3 jours visent à sortir le pays de la crise politique qui dure depuis les législatives d'avril dernier. Un défi de taille en l'absence des poids lourds de l'opposition, Nathalie Barge.
Parmi les 9 partis qui prennent part à la rencontre, avec environ 300 participants, la plupart sont des satellites de la majorité présidentielle. Seule exception, la présence des forces Kori pour un Bénin émergent, le parti de l'ex-chef d'État Thomas Boniaï, qui a quitté Cotonou fin juin après le siège de son domicile par les forces de l'ordre et n'est pas réapparu en public depuis. Plusieurs grands partis d'opposition n'ont pas été conviés au dialogue politique. C'est notamment le cas de l'Union sociale libérale de Sébastien Adjavon, exilé en France, et de restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense Candide Azanei. Les tensions découlent des élections législatives du 28 avril. L'opposition n'y avait pas participé pour la première fois en 30 ans, de nombreux partis n'ayant pas rempli les conditions légales adoptées par le Parlement. Les manifestations qui avaient suivi et leur répression ont fait une dizaine de morts par balle.
Au Ghana, la justice a inculpé 9 personnes pour trahison. Elles sont soupçonnées d'avoir comploté pour renverser le gouvernement. Le Point avec Yacouba Ouédraogo.
Les suspects qui ont été arrêtés le mois dernier ont plaidé non coupables devant le tribunal d'Accra. Parmi eux, 4 officiers de l'armée de l'air et un médecin accusés d'avoir utilisé son hôpital pour fabriquer des armes en vue de déstabiliser le gouvernement du président Nana Akufo-Addo. 2 autres suspects ont été libérés. Les procureurs ont déclaré que les accusés, qui font partie d'un groupe appelé Take Action Ghana, avaient l'intention d'organiser des manifestations dans le but de renverser le président. « Mes clients sont innocents. Toute cette affaire est montée de toutes pièces et ils doivent être libérés », a rétorqué Maître Victor Adaoudou, avocat de la défense. Le juge a fixé au 28 octobre une nouvelle audience. Le Ghana, considéré comme un pays stable et démocratique, est dirigé par des gouvernements élus depuis 1992. Le pays se prépare à organiser de nouvelles élections fin 2020.
Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé un directeur d'école dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, une semaine après l'enlèvement de 6 étudiantes et de 2 membres du personnel d'une autre école. C'est ce qu'a annoncé l'adjoint du directeur enlevé. Injoignable, la police locale n'a pas encore confirmé l'incident. L'Organisation mondiale de la santé a assuré que l'épidémie d'Ebola en RDC était désormais confinée à une plus petite région, mais a souligné que cette zone rurale, difficile d'accès, présentait aussi d'importants défis en matière de sécurité. C'est lors d'une conférence de presse à Genève que Michael Ryan, directeur du programme pour les urgences de l'OMS, de retour de RDC, a fait part de son optimisme prudent face à la situation. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a annoncé aujourd'hui à Lyon, en France, que l'objectif de rassembler 14 milliards de dollars pour combattre le sida, le paludisme et la tuberculose dans les 3 ans à venir a été atteint. Eric Manirakiza.
Cet argent est destiné à sauver 16 millions de vies supplémentaires et à prévenir 234 millions d'infections d'ici à 2023. Gail Smith, présidente de l'ONG One, a évoqué une immense victoire pour l'humanité. Notre vie a de la valeur, vous ne devez jamais l'oublier, a lancé l'ambassadrice du réseau Grandir Ensemble, Amanda Dushime, 18 ans. Burundaise née avec le VIH. De son côté, El Hadj Diop, un Sénégalais engagé dans la lutte contre le paludisme depuis la mort de sa fille il y a 20 ans, a rappelé que cette maladie continue d'ôter la vie à un enfant toutes les 2 minutes. Les 3 pandémies font près de 3 millions de morts par an. Le fonds, créé en 2002, a également enregistré l'arrivée de nouveaux contributeurs. Les pays d'Afrique ont apporté 2 fois plus que la dernière fois. La France a annoncé une hausse de 15% de sa contribution. Le milliardaire Bill Gates, d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont aussi augmenté leurs contributions.
Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a encouragé son homologue camerounais Paul Biya à mettre réellement en œuvre le dialogue politique après la libération du principal opposant, Maurice Kamto. Paul Biya l'a assuré de sa volonté d'aller en ce sens. Les deux chefs d'État ont eu une rare opportunité de s'entretenir en tête-à-tête à Lyon. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé ses concitoyens davantage de tolérance après les émeutes xénophobes meurtrière de septembre dernier. Des migrants africains inquiets campent toujours devant des bureaux de l'ONU en Afrique du Sud afin d'obtenir de l'aide pour quitter le pays. On devrait s'accepter les uns les autres en Afrique du Sud, a martelé Cyril Ramaphosa devant la chambre haute du Parlement sud-africain au Cap. L'Afrique du Sud abrite près de 268 000 migrants et des demandeurs d'asile venus de Somalie, de la RDC et de l'Éthiopie, selon le HCR. Aux Comores, l'opposition a conditionné sa participation aux élections législatives début 2020 au vote de la diaspora et à la garantie de scrutins transparents, libres et démocratiques. Le poids électoral des Comoriens vivant à l'étranger est important. Ils sont quelque 300 000 en France, l'ancienne puissance coloniale. L'Union des Comores, archipel de l'océan Indien, compte près de 800 000 habitants. Amnesty International a dénoncé l'actuel climat de répression du mouvement populaire de contestation en Algérie. Dans un communiqué publié ce jeudi, le jour même où un responsable associatif était à nouveau arrêté.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné vigoureusement ce jeudi l'invasion des forces turques dans le nord-est de la Syrie. Les Européens appellent à l'arrêt de cette offensive. Les précisions avec Irénée Hermanombo.
Israël condamne l'invasion turque des régions kurdes en Syrie et dit être prêt à fournir une aide humanitaire aux Kurdes. À Tel Aviv, allié de Washington, le retrait américain et l'offensive turque ont suscité de vives craintes. L'assaut turc en Syrie a provoqué un tollé international. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui jeudi. La Ligue arabe a convoqué une réunion samedi pour discuter de l'offensive contre les Kurdes en Syrie. Le président français Emmanuel Macron appelle la Turquie à mettre un terme le plus rapidement possible à cette offensive. L'Italie a convoqué l'ambassadeur de la Turquie à Rome. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé jeudi d'ouvrir les portes de l'Europe à des millions de réfugiés en réponse aux critiques européennes. La Turquie accueille 3 600 000 réfugiés syriens. Le flux de migrants vers l'Europe a baissé à la faveur d'un accord conclu en 2016 entre Ankara et l'Union européenne.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde inquiétude et a appelé à l'apaisement devant l'escalade de la violence dans le nord-est de la Syrie, au lendemain de l'offensive lancée par Ankara. L'Iran a donné quelques détails supplémentaires sur son projet régional de sécurité pour le Golfe dans une tribune de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, publiée par le journal koweïtien Al-Rai. Les peuples et les nations du Golfe Persique ont leur destin lié, soit tout le monde bénéficiera de la sécurité dans la région, soit tout le monde en sera privé, a écrit M. Zarif selon la traduction en persan de ce texte fourni par son ministère. L'Irak entame ce jeudi un deuil national après la mort de plus de 100 personnes, en grande majorité des manifestants abattus par balles, alors qu'ils réclamaient de meilleurs services et la lutte contre le chômage et la corruption. Les réseaux sociaux sont toujours bloqués dans le pays. Un rapport des Nations Unies alerte une nouvelle fois sur la situation au Yémen, ravagée par une guerre qui dure depuis 2014. Le pays deviendra le plus pauvre du monde si le conflit se poursuit jusqu'en 2020. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar ont affirmé entrevoir un chemin vers un possible accord sur le Brexit sans expliquer comment ils comptaient sortir de l'impasse à moins de 3 semaines de la date prévue du divorce. Malgré plusieurs jours de discussions techniques sur la frontière irlandaise sans avancée majeure, les deux dirigeants continuent de croire qu'un accord est dans l'intérêt de tous. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Guinée équatoriale déclare que les nouveaux contrôles monétaires imposés par la Banque des États de l'Afrique centrale pourraient ruiner l'industrie pétrolière et gazière du Golfe de Guinée et détruire l'économie équato-guinéenne. Les règles de la BEAC introduites en juin visent à mettre de l'ordre dans un bloc monétaire qui regorge de pétrodollars qui, en raison de contrôles peu rigoureux, aboutissent souvent dans des comptes bancaires offshore après avoir contourné complètement les économies locales. Les entreprises affirment que ces restrictions entraînent une grave pénurie de devises et retardent les transactions. Le Nigeria demande 62 milliards de dollars aux compagnies pétrolières internationales en vertu d'une réglementation permettant au gouvernement de revoir les accords de partage des revenus sur les ventes de pétrole si les prix du brut dépassent 20 dollars le baril. Les sociétés pétrolières impliquées dans cette affaire n'ont pas été nommées. Des sources industrielles et gouvernementales ont déclaré à Reuters que Shell, Eni, Chevron et Exxon avaient été invités à verser entre 2,5 et 5 milliards de dollars au gouvernement central. Pour terminer, l'économie égyptienne connaîtra une croissance de 5,8%, un taux en deçà de l'objectif de 5,9% du gouvernement. Le gaz, le tourisme, le commerce, l'immobilier et la construction ont été les principaux moteurs de la croissance. Les exportations nettes des biens et services et les investissements privés ont augmenté.
C'est l'heure de l'actualité sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Yekia, bonsoir à tous.
Le Sénégal accroche le Brésil en match amical.
1-1 entre les Lions de la Teranga et la Seleção à Singapour. Le Brésil était pourtant bien entré dans son match avec un but de Roberto Firmino dès la 8e minute de jeu, mais Diédiou a égalisé à la 45e sur une pénalty provoquée par Sadio Mané. C'était la première sortie pour Aliou Cissé et ses poulets après la défaite en finale de la CAN 1-0 face à l'Algérie. Neymar est resté muet pour sa 100e sélection. Vainqueur de la Copa América à domicile en juillet, le Brésil enchaîne ainsi un 3e match sans victoire après une lune en amical en septembre contre la Colombie 2-2 et une défaite 1-0 devant le Pérou. La Seleção aura l'occasion de se rattraper dimanche contre le Nigeria, toujours à Singapour. Une opportunité pour Neymar, 61 buts en sélection, d'égaler Ronaldo, 62 réalisations et 2e meilleur buteur de l'histoire du Brésil, derrière Pelé, 77 buts. De son côté, le Congo a fait 1-1 avec la Thaïlande. La RDC joue l'Algérie championne d'Afrique ce soir à 19h45, temps universel.
2 mois de suspension pour le président de la Fédération ougandaise de football.
Oui, Moses Hassim Magogo a été suspendu par la FIFA de toute activité liée au football pour 2 mois suite à une affaire de revente de billets du Mondial 2014. Le président de la Fédération ougandaise a aussi été condamné par la commission de discipline de la FIFA à une amende de 9000 euros. L'enquête avait été ouverte depuis juillet 2018.
Les femmes de retour au stade en Iran.
C'est une première en près de 40 ans. Environ 3500 femmes étaient présentes ce jeudi dans les gradins du stade Azadi de Téhéran pour soutenir le 11 masculin national face au Cambodge en éliminatoire pour le Mondial 2022, tenu à l'écart des hommes dans une arène remplie à moins de 10%. Ses supportrices, plus nombreuses, n'ont pas pu empêcher la lourde défaite de leur équipe nationale 14-0. Après la révolution islamique de 1979, les Iraniennes s'étaient vues refuser l'accès au stade pour les compétitions de football hommes, officiellement pour les protéger de la grossièreté masculine.
Un match de la NBA s'est disputé en Chine malgré la crise.
Et oui, les Los Angeles Lakers de LeBron James et les Brooklyn Nets ont disputé comme prévu à Shanghai un match d'exhibition. Le doute planait sur cette rencontre perdue 111-114 par les Lakers. La crise entre la Chine et la NBA a commencé vendredi après un tweet du directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, qui exprimait son soutien aux manifestants hongkongais. Pékin et de nombreux internautes chinois ont exprimé leur mécontentement après le tweet. Le match s'est finalement tenu sous forte présence policière.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com et Kabadou toujours en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour et on commence avec le Bénin où le dialogue politique tant annoncé a démarré ce jeudi matin avec les partis politiques ayant pu avoir leur certificat de conformité. Il s'agit pour les acteurs politiques de cette rencontre de travailler à ce que le retour à la paix soit définitif. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande.
C'est le président Patrice Talon qui a démarré les travaux jeudi au palais des congrès de Cotonou. Le chef de l'État est revenu sur les raisons profondes de ce dialogue politique qui pour lui reste nécessaire si le Bénin tient à se relever de la discorde née des élections législatives passées.
Le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ses acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès.
Le dialogue va se prononcer sur le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques, du renforcement du système partisan, la recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Cette rencontre devrait permettre de définir le statut de l'opposition et les mesures d'apaisement de la situation politique. Mais peut-on parler de dialogue politique lorsque des partis sont écartés parce que ne disposant pas de certificat de conformité? Pour Octavianus Akpabli, professeur agrégé des universités en économie, les tests sont faits pour être respectés.
Il faut qu'on évite de rentrer dans la contradiction. Le Bénin est gouverné sur la base des tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Comment voulez-vous qu'un parti qui n'est pas légalement constitué puisse être convié à un dialogue politique? Donc, quel nom donnerait-on à ce parti? Un parti qui n'est pas légalement constitué ne peut pas s'appeler parti politique. Donc c'est normal que le gouvernement reste cohérent avec lui-même en invitant rien que les partis politiques qui sont légalement constitués. Pour moi, c'est normal et c'est justifié.
Les partis politiques attendent énormément de cette assise qui doit pouvoir aplanir les divergences et orienter vers une porte de sortie. Ses fils Béouagia du Mouel Bénin espère que la question sur la charte des partis politiques et le code électoral sera abordée du fond en comble.
Comme attente, c'est déjà qu'il faut voir au niveau des réformes politiques ce qu'il faut améliorer. C'est-à-dire que les tests qui portent ces réformes, en l'occurrence la charte des partis politiques et le code électoral qui comporte en eux certaines dispositions dont l'application et la mise en œuvre ont révélé qu'elles pouvaient créer plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Donc, Moël Bénin estime qu'il faut travailler sur ces questions-là et ce n'est qu'ensemble avec toutes les autres forces politiques qu'on pourra travailler à améliorer cette disposition-là.
Les grands absents à cette assise politique sont la RB de Nicéphore Soglo, l'USL de Sébastien Adjavan, l'FCBE, l'aile du président Yahi Boni qui d'ailleurs ont tenu une conférence de presse pour porter des critiques virulentes sur le dialogue politique en cours. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
En Angola, le Haut Commissariat pour les réfugiés a commencé à faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés congolais du camp de Lovoa dans la province de Landa Nord. Le premier convoi de 200 réfugiés est arrivé aujourd'hui au centre de transit de Mungamba dans la province du Kasaï. Claire Morin-Gibourg a joint à Tikapa Olivier Bir, le représentant adjoint du HCR en RDC, qui était présent aujourd'hui pour son arrivée.
Donc il y a encore plus ou moins 10 000 réfugiés dans le camp de Lovoa en Angola. Ça se trouve dans la province de Lindamborst. Et parmi ces 10 000, il y en a 4 000 qui ont souhaité revenir. Il faut savoir que le HCR ne fait pas encore la promotion du rapatriement compte tenu de la situation en RDC qui a encore besoin de se stabiliser. Par contre, ces personnes ayant exprimé le désir de rentrer, le rapatriement étant volontaire, nous les assistons, nous facilitons leur retour pour qu'ils se passent dans de bonnes conditions. Il y en a encore 4 000 qui se sont enregistrés pour venir, 2 600 qui vont aller vers le Kasaï, vers la province du Kasaï, et 1 600 vers la province du Kasaï central, donc un ratio de 2 tiers et 1 tiers. Normalement, ça va se faire à raison de 2 convois par semaine, Donc il y aura plus ou moins 6 convois pour le Kassai et 4 convois pour le Kassai central.
Quelles sont les plus grandes difficultés ou les plus grands défis pour ces réfugiés de retour dans leur pays?
Je vais commencer par une note positive avant de parler des défis. Une des raisons principales pour laquelle ces personnes souhaitent revenir, c'est bien entendu parce qu'on ne se retrouve pas du tout dans la même situation que lorsqu'ils ont dû partir, c'est-à-dire la guerre qui avait sévi ici. On se retrouve dans une situation beaucoup plus apaisée. Il n'y a plus de gens qui se font décapiter, les autorités qui se font tuer, etc. Donc ces personnes peuvent retrouver certains des services de l'État et le gouverneur les a assurés que s'il y avait le moindre problème, ils pouvaient aller voir la police, ils pouvaient essayer de rentrer dans leurs droits, etc. Le principal défi, par contre, c'est que la situation économique, la situation socio-économique ne s'est pas vraiment améliorée et qu'il n'est donc pas du tout facile pour ces personnes, mais tout comme les Congolais qui ne sont pas partis, de retrouver un accès à l'école parce que pas mal d'écoles ont été détruites ou n'ont pas de professeurs ou bien tout simplement ils ne peuvent pas payer les frais relatifs à l'école, hein, les uniformes, etc. Il y a aussi un défi en matière d'accès à la santé parce qu'il y a des endroits où il y a des centres de santé qui n'ont pas de médicaments, etc. Il y a les questions aussi d'accès à la terre. Beaucoup de ces personnes ont perdu leur terre ou leur maison qui ont été détruites lorsqu'elles sont parties et maintenant se retrouvent dans des endroits où ils n'ont plus de maison. Donc voilà un peu les principaux défis. Il y a aussi des personnes qui ont été des survivants de violences basées sur le genre et les structures ici de réponse à ce type de violences ne sont pas encore de nature à pouvoir réinsérer durablement ces personnes dans la société.
Olivier Bert, représentant adjoint du HCR en République démocratique du Congo, joint à Tshikapa.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La 8e édition du CIALO, le Salon international de l'agriculture de Lomé, qui se tient du 8 au 14 octobre dans la capitale togolaise, fait la part belle à l'agriculture biologique. À travers des conférences thématiques, notamment sur l'enjeu de l'agriculture bio et les perspectives du marché pour le bio, le CIALO veut accompagner les producteurs togolais à opter pour une agriculture éco-responsable. La problématique du bio, un reportage de Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
Dans les couloirs du Salon international de l'agriculture de Lomé-Cialo, la culture biologique ou le bio est la terminologie la plus utilisée. C'est aussi un argument de vente. Tous les produits, transformés comme non transformés, se réclament bio.
Nos fruits sont des purs bio. Tous les fruits qui sont cultivés sur le pic d'Apou sont des bio parce que chez nous, la terre est bien. Donc nous n'avons pas besoin de l'engrais pour faire nos cultures.
Que ce soit au niveau des consommateurs ou des producteurs, il y a un profond amalgame autour du bio et du naturel, dit avoir constaté Agbe Yao, ingénieur agronome.
Les gens pensent que tout produit qui n'a pas été transformé est bio, mais il y a une grande différence entre un produit naturel et un produit bio. Un produit bio a été documenté, certifié par un inspecteur agrémenté. Le produit naturel, tant que ce n'est pas un OGM, c'est naturel. Mais quand vous voulez parler de bio, la certification, le document qui atteste que votre produit a respecté les normes bio.
Pour Mana Pawai Aweso, directrice de la ferme agricole Maxime, le bio ne peut être rentable que pour les petites exploitations.
Avec la superficie que j'ai, je ne peux pas produire bio et pouvoir entretenir. Parce que bio demande d'amener le truc naturellement. Parce que si tu veux faire bio, le travail est plus à la main qu'à la mécanisation. Tu n'as pas la main d'œuvre suffisante pour le faire. Mais si tu veux apporter le compost, tu n'auras pas suffisamment pour le faire.
Avant de prétendre à labelliser ces produits bio, il faut d'abord commencer par l'agroécologie, estime d'outils d'Optime. Il est technicien en agroécologie et accompagne les producteurs agricoles dans une démarche écologique plus respectueuse de l'environnement.
L'agriculture écologique que nous disons, c'est une agriculture dans laquelle nous demandons aux producteurs de prendre soin de leur sol. Il faut faire les composts, fabriquer les biopesticides, faire les cordons pierreux. Donc tout ça, là, ça rentre dans les pratiques agroécologiques. L'agriculture bio se retrouve dans l'agriculture écologique.
Le commissariat général de ce salon de l'agriculture invite les producteurs à migrer vers la culture biologique dont les débouchés sont immenses et qui permet aux petits producteurs de réduire leurs dépenses liées aux coûts de production afin de dégager plus de bénéfices. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Le président Donald Trump prédit que sa bataille contre l'enquête parlementaire des démocrates de la Chambre finira devant la Cour suprême des États-Unis. Dans le même temps, le président ukrainien a réitéré hier qu'il n'a subi aucun chantage du président Trump durant leur appel téléphonique en juillet dernier. Le point avec Lionel Gaïma.
Le président Donald Trump a parlé hier aux journalistes au lendemain du refus de la Maison-Blanche de participer à l'enquête menée par les démocrates de la Chambre sur une éventuelle mise en accusation du président américain.
Tout cela, c'est de l'arnaque. C'est un règlement de compte. Et nous avons écrit une lettre hier. Probablement, cela finira devant la Cour suprême. Peut-être que ça va prendre du temps. Je ne sais pas. Mais le Parti républicain a été incroyablement et injustement maltraité par les démocrates.
M. Trump a promis de coopérer avec les démocrates si les républicains reçoivent un traitement équitable. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, prend ce refus de coopérer du président comme une autre preuve d'obstruction. L'appel téléphonique du président, son homologue ukrainien, pour demander un coup de pouce pour salir Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate, et son fils Hunter, est au centre de la plainte d'un lanceur d'alerte. Joe Biden, pour la première fois, a déclaré publiquement ce mercredi que les actes posés par Trump justifient une destitution.
Avec ses paroles, ses actes, le président Trump s'est inculpé lui-même en faisant obstruction à la justice, en refusant de se conformer à l'enquête du Congrès. Il s'est déjà déclaré coupable à la face du monde et du peuple américain. Donald Trump a violé son serment. Il a trahi la nation et il a commis des actes pour lesquels il doit être destitué.
L'appel téléphonique du président Trump au président ukrainien le 25 juillet dernier est au cœur de la plainte d'un lanceur d'alerte. Un deuxième lanceur d'alerte et une série de textos de diplomates semblent corroborer la plainte du premier lanceur d'alerte. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu une conférence de presse. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de chantage lors de son appel téléphonique avec le président Trump. Il a ajouté qu'il ne savait pas, au moment de l'appel, que Trump avait décidé de bloquer des centaines de millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Les démocrates accusent le dirigeant américain d'avoir gelé cette aide pour faire pression sur l'administration ukrainienne pour qu'elle enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. M. Zelensky a déclaré que son objectif était d'avoir une rencontre avec M. Trump pour le convaincre de changer son discours public sur le fait que l'Ukraine était un pays corrompu. Il a assuré que la partie américaine n'a posé aucune condition et les deux hommes ont finalement eu un tête-à-tête à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et l'affaire ukrainienne est toujours à la une de journaux aux États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Firmin Max Koyaweda était à la mise en onde. Zorniak Wojtek à la console. À la présentation, c'était Etia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com. Excellente suite de programmes et de soirées à l'écoute de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore.
sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.